Il est midi 31 sur France Culture. L'heure du journal avec Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Carles Puigdemont, arrêté hier dans le nord de l'Allemagne, comparaît aujourd'hui devant un juge. Le chef de file des indépendantistes catalans pourrait être envoyé en Espagne au risque, où il risque jusqu'à 30 ans de prison pour rébellion. Correspondance de Cyril Sauvageau à Berlin. Réaction en Catalogne avec Sébastien Berriot. Le conflit au Yémen avec les rebelles chiites houthis qui sont soutenus par l'Iran et qui tirent une salve de 7 missiles en direction de Riyad. L'Arabie Saoudite les intercepte, mais la chute de débris fait un mort et plusieurs blessés dans la capitale saoudienne. Analyse avec Nadine Epstein. La suite des attaques de Trèves et de Carcassonne, deux proches du djihadiste qui a assassiné 4 personnes sont toujours en garde à vue. La compagne du tueur était comme lui, fichée pour radicalisation. Précision de Florence Turm. Et parmi les réactions politiques, celle du président du Parti des Républicains ce matin, Laurent Wauquiez, qui dénonce la coupable naïveté d'Emmanuel Macron, qui réclame notamment le rétablissement de l'état d'urgence et qui réitère sa demande de rétention administrative des fichiers S, les plus dangereux. Compte rendu de cette conférence de presse ce matin avec Anne Fauquemberg. On parlera de l'agitation dans certaines universités qui se poursuit. Climat très tendu à Montpellier, 3 jours après l'intrusion violente d'hommes cagoulés dans un amphithéâtre occupé. On fera le point avec Cécile de Kervazoué. Et puis le volet prévention de la stratégie du gouvernement sur la santé pour les 5 ans à venir. 25 mesures au total ce matin annoncées, qui vont du traitement anti-tabac qui sera remboursé comme n'importe quel médicament jusqu'à la vaccination anti-grippe disponible en pharmacie en passant par le dépistage du cancer du col de l'utérus. Précision sur ces mesures avec Boris Loumagne, l'invité de la séquence interview, notre consoeur Edith Bouvier, auteur d'une enquête intitulée « Un parfum de djihad ». C'est publié chez Plon. Dans la dernière partie de la grande table, Olivier Gesbert.
Il observe, le sociologue Alain Ehrenberg, il montre l'autorité morale acquise au fil des années par les neurones. Neurosciences cognitives, elles sont même entrées maintenant, on le sait, à travers l'éducation nationale dans le champ de la politique. On va en reparler avec lui, il est l'invité de la deuxième partie de l'émission.
Après son arrestation donc hier dans le nord de l'Allemagne, Carles Puigdemont est détenu ce matin toujours dans la prison de Neuenmünster. C'est dans le nord donc du pays. Le chef indépendantiste catalan dispose d'une majorité au Parlement à Barcelone, on le sait, et il doit comparaître aujourd'hui devant un juge. Une comparution qui va marquer en fait le début d'une procédure en vue d'une éventuelle remise à l'Espagne qu'il accuse de rébellion, et il risque jusqu'à 30 ans de prison. Donc effectivement, s'il est remis à Madrid, Cyril Sauvageau, la procédure en Allemagne, elle, actuellement, à partir de maintenant, peut durer jusqu'à 60 jours, c'est un maximum.
Et on devrait savoir dans la journée ou au plus tard demain si Carles Puigdemont est maintenu en détention. C'est la première étape de cette procédure. Ensuite, l'examen du mandat d'arrêt européen prendra plusieurs jours, voire plusieurs semaines. L'Allemagne a jusqu'à 2 mois, 60 jours en effet, pour prendre une décision. Le temps de déterminer si les charges retenues en Espagne sont compatibles avec le droit allemand. Il faut que ce soit le cas pour rendre possible une remise du prisonnier. Or, d'après les juristes, plusieurs accusations à l'encontre de l'ancien dirigeant catalan tombe effectivement sous le coup du code pénal allemand, l'accusation de haute trahison, mais aussi celle de détournement d'argent public.
Cette arrestation, Cyril, suscite en tout cas un très vif débat en Allemagne.
Oui, l'opposition de gauche crie au scandale. Pour le parti Die Linke, cette arrestation est une honte. Les écologistes appellent quant à eux à une libération immédiate. Pour le député vert Christian Ströbele, la rébellion démocratique n'est pas passible de poursuite en Allemagne. À l'inverse, la CDU, le parti d'Angela Merkel, estime logique que le chef indépendantiste soit livré à l'Espagne et le plus rapidement possible. Les autorités allemandes ont tout intérêt à ne pas faire traîner. Le dossier est politiquement délicat. Le gouvernement fédéral est d'ailleurs resté très discret jusqu'ici. Pour la ministre de la Justice, la social-démocrate Katharina Barley, un seul mot d'ordre, c'est aux tribunaux et à eux seuls de trancher.
Cyril Sauvageau à Berlin. En France, le parti indépendantiste Corse, Corsica Libera, compare l'arrestation de Carles Puigdemont à celle du président de la Généralité de Catalogne, Luis Companys, en 1940 par la Gestapo. Il dénonce la montée du fascisme en Europe. L'arrestation de Puigdemont a conduit hier des milliers d'indépendantistes dans la rue, notamment à Barcelone, où les manifestants, à l'appel d'un groupe radical, les comités de défense de la République ont tenté d'approcher de la préfecture. Les policiers catalans les ont repoussés à coups de matraque en tirant en l'air. hier. Il y a au moins 90 personnes qui ont été blessées légèrement à Barcelone, dont 22 policiers. Le président du Parlement lance un appel au calme à la télévision régionale. J'ai aucun doute, dit-il, que la société catalane agira comme elle a toujours fait, par la non-violence. On est en ligne avec Sébastien Berriot. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes à Gérone, actuellement en Catalogne. Donc, comment qualifier cette situation ?
Alors, pour beaucoup de Catalans, l'arrestation de Carles Puigdemont en Allemagne n'est pas vraiment une surprise, que ce soit en Belgique ou ailleurs. On s'attendait ici à cette issue un jour ou l'autre. Mais pour les indépendantistes, l'ancien président est devenu au fil des mois un symbole et son arrestation provoque une réaction de colère qui est très forte. Alors, pas de manifestation organisée comme ça se fait d'habitude, mais depuis hier, on assiste à des actions spontanées à travers toute la Catalogne avec des militaires très déterminés, souvent d'extrême gauche, qui se déploient dans les villes et sur les routes. Ici, par exemple, à Gérone, hier soir, ces indépendantistes radicaux ont complètement bloqué l'autoroute AP7, axe européen majeur qui relie Barcelone à la France. Il n'y a pas eu d'affrontement avec les forces de sécurité, mais le climat était extrêmement tendu. Le blocage de l'autoroute a été levé un petit peu après minuit. Il doit en principe reprendre cet après-midi. Même chose à la frontière franco-espagnole côté montagne à Puigcerdà. La route devrait à nouveau être bloquée ce soir. Alors lorsque vous discutez avec tous ces militants issus des comités de défense de la République, vous sentez une sorte de haine vis-à-vis de l'Espagne qui est montée d'un cran après l'arrestation de Puigdemont. La classe politique à Barcelone, dans le camp indépendantiste, n'a pas ou peu d'emprise sur ces personnes. Après les scènes de guérilla urbaine vues hier dans plusieurs villes, les dirigeants indépendantistes ont compris que la situation pouvait leur échapper et dégénérer. Carles Puigdemont lui-même en a pris conscience dans un message transmis par l'intermédiaire de sa femme hier, juste avant de rentrer en prison. Il a rappelé que la violence n'était pas la solution pour la Catalogne.
Sébastien Berriot, merci beaucoup. Vous étiez donc en direct de Gérone. La suite de l'actualité à l'étranger avec les élections en Égypte, les Égyptiens qui se rendent aux urnes donc pour un scrutin présidentiel de 3 jours sans grand suspense puisque l'homme fort du pays, Abdel Fattah al-Sissi, est assuré de décrocher un deuxième mandat. Le conflit du Yémen avec les rebelles chiites houthis qui sont soutenus par l'Iran et qui tirent hier soir une nouvelle salve de missiles, 7 missiles au total en direction de Riyad, missiles interceptés au-dessus de l'Arabie Saoudite, mais la chute des débris a fait, dit-on, un mort et plusieurs blessés. Nadine Epstein, ce sont des tirs qui interviennent le jour du 3e anniversaire de l'intervention de la coalition militaire qui est menée par Riyad contre ces rebelles houthis.
Et selon des milices yéménites houthis, des missiles ont été lancés contre 4 aéroports saoudiens, dont celui de Riyad et contre une résidence du roi Salman. La défense antiaérienne saoudienne a détruit ces missiles. Toutefois, vous l'avez dit, une personne a été tuée, 2 autres blessés dans la capitale saoudienne. En novembre dernier déjà, Riyad avait intercepté d'autres types de missiles, accusant l'Iran de fournir drones et missiles balistiques aux milices chiites, ce que rejette Téhéran, tandis qu'un rapport international estimait il y a 3 mois que l'Iran n'avait pas respecté l'embargo sur les armes au Yémen. De leur côté, les Houthis accusent l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis d'avoir été armés par les États-Unis pour envahir et occuper le Yémen. Jeudi dernier, Washington a signé des contrats d'armement de plus d'1 milliard de dollars avec l'Arabie Saoudite, notamment la vente de missiles anti-chars. Actuellement, c'est surtout le blocus maritime, aérien et commercial qui plonge le Yémen dans le chaos. Déjà avant la guerre, il y a 3 ans, le pays était dépendant à 90% des importations. Aujourd'hui, le blocus menace de famine près de 8,5 millions de personnes. Blocus humanitaire aussi qui limite drastiquement l'entrée de nourriture et de médicaments dans le port de Hodeïda et on estime que 3 habitants sur 4 ont besoin d'aide. Officiellement, la guerre a tué 10 000 hommes, femmes et enfants, mais aujourd'hui, les ONG estiment que les victimes de ce conflit sont bien plus nombreuses. Quand les bombes ne tuent pas, ce sont les maladies, le manque d'accès à la nourriture et aux soins, ou la flambée des prix qui tue, dénoncent les organisations humanitaires, selon lesquelles un enfant meurt toutes les 10 minutes des conséquences directes ou indirectes de cette guerre.
Merci Nadine Epstein. Les suites donc des attaques de Trèves et de Carcassonne, après les hommages et le recueillement, l'enquête continue de progresser. Deux proches du djihadiste qui a assassiné 4 personnes sont toujours en garde à vue. On a appris ce matin que la compagne du tueur était, comme lui, fichée pour radicalisation. C'est une jeune femme de 18 ans qui était aussi suivie par les services de renseignement, Florence.
Oui, et cette garde à vue peut durer jusqu'à demain soir. 96 heures, c'est ce que prévoit la loi en matière d'antiterrorisme, d'autant que ni la compagne du tueur, ni cette autre personne placée en garde à vue, son ami mineur de 17 ans, n'ont fait valoir leur droit au silence. Cela veut dire qu'ils répondent, en tout cas en partie, aux questions des enquêteurs, et elles sont nombreuses, avec un travail sur deux axes principaux. Il s'agit à la fois de déterminer les raisons du passage à l'acte et de déceler d'éventuelles complicités. Depuis la tuerie de Toulouse en mars 2012, les milieux policiers et politiques évitent de recourir à l'expression loup solitaire, employée pour qualifier Mohamed Merah, mais la polémique a déjà ressurgi sur la fiche S, son utilité et ses limites. Fiche S pour Sûreté de l'État, c'est un fichier en constante évolution, constitué dans les années 60, mais qui regroupe désormais principalement des profils à caractère terroriste, avec une ou plusieurs classifications à l'intérieur. Elles ont pour but de rassembler un maximum de renseignements sur les personnes concernées. La fiche S permet ainsi de retracer leurs déplacements, d'échanger des informations au niveau européen, mais pas de les arrêter, ni de les surveiller en permanence. En l'occurrence, le procureur de Paris a indiqué qu'aucun élément ne pouvait laisser penser que Radouane Lakhdim, l'auteur des attaques de l'Aude, ait eu l'intention de se rendre en Syrie. Rien qui permette non plus de déceler chez lui un signe précurseur de ce passage à l'acte. Il était fiché S depuis 2014. Sa compagne, âgée de 18 ans seulement, l'est aussi pour radicalisation, mais ils l'étaient tous les deux à l'un des niveaux les plus bas dans l'échelle de dangerosité. De sources proches du renseignement, la jeune femme était surtout active sur les réseaux sociaux où elle faisait l'apologie du terrorisme.
Florence Thur, merci pour ces précisions. Parmi les réactions politiques, celle du président du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, qui dénonce ce matin, je cite, la coupable naïveté d'Emmanuel Macron qui réclame le rétablissement de l'état d'urgence et qui réitère sa demande de rétention administrative des fichiers S les plus dangereux et aussi l'expulsion des étrangers qui seraient dans ce cas, selon lui, le chef de l'État. Anne Fauquemberg, vous avez assisté à sa conférence de presse ce matin. Selon lui, le chef de l'État se trompe tragiquement de diagnostic.
Oui, c'était un discours court et solennel pour frapper fort. 7 minutes 30 au cours desquelles Laurent Wauquiez a réaffirmé les positions de Les Républicains en matière de lutte contre le terrorisme. Ces propositions, elles sont connues. Certaines d'entre elles avaient déjà été faites à l'automne dernier à l'Assemblée nationale par les députés Guillaume Pelletier, Éric Ciotti ou encore Guillaume Larrivé. Le rétablissement de l'état d'urgence, l'expulsion des étrangers fichés S, propositions auxquelles Laurent Wauquiez ajoute donc l'internement des suspects les plus dangereux. C'est une question de responsabilité politique, selon lui.
Cette guerre contre Daesh, contrairement à ce qu'Emmanuel Macron a osé dire, nous ne l'avons pas gagnée. Et nous ne la gagnerons pas si nous n'utilisons pas toutes les armes. Sans avoir la main qui tremble. Il n'y a plus de place pour la candeur. Nous ne vaincrons pas cet ennemi à coup de pas d'amalgame, par de beaux discours et des gestes symboliques.
Voilà pour ce qui est de la ligne dure développée ce matin par Laurent Wauquiez. Référence également a été faite à la déchéance de nationalité, mais sans détail à ce stade. Selon Laurence Cellier, la porte-parole des LR, de nouvelles propositions viendront ces prochains jours traduire ce discours solennel du président de Les Républicains.
Et puis la présidente du Front National également, Marine Le Pen, réclame la démission du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, pour, dit-elle, une défaillance profonde du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Cette question de la prévention de ce genre d'attaque, du traitement aussi des fichiers S suscite un débat dans la classe politique. Vous avez vu les arguments, notamment critiques, Anne Fauquemberg.
Oui, c'est le cas après chaque attentat. Faut-il encore durcir la législation, sachant que pour de nombreux juristes et législateurs, il semble difficile d'aller plus loin. La dernière loi antiterroriste a ainsi aménagé dans le droit commun une bonne partie des mesures d'exception permises par l'état d'urgence, exemple avec les assignations à résidence, qui peuvent être désormais décidées par le préfet sans décision de justice, ce qui fait dire à la sénatrice UDI de l'Orne, Nathalie Goulet, que revenir à l'état d'urgence serait tout simplement crétin. Le président LREM de l'Assemblée nationale, François de Rugy, accuse également la surenchère de la droite et de l'extrême droite qui prône l'enfermement des fichiers S les plus dangereux. Les États-Unis ont eu à une époque Guantanamo et on a bien vu que ça ne marche pas, a-t-il expliqué sur Europe 1.
Anne Fauquemberg, merci. L'agitation se poursuit dans certaines universités françaises. La tension reste vive en tout cas à la faculté de droit de Montpellier, devant laquelle des étudiants pro et anti-blocage se sont encore rassemblés ce matin. Nous sommes 3 jours après une intrusion assez violente d'hommes cagoulés dans un amphithéâtre occupé. Il faut dire que depuis la mi-février, maintenant, des étudiants bloquent l'université montpelliéraine de lettres, cette fois Paul Valéry, pour dénoncer la sélection qu'introduit, selon eux, la nouvelle loi Vidal sur l'accès à l'université. Le blocus et son extension, la faculté de droit, divisent évidemment les étudiants et les enseignants, et le doyen de la faculté a d'ailleurs démissionné hier. Cécile de Carbaz-Doué, bonjour.
Bonjour.
Reprenons cette contestation peut-être plus largement. Effectivement, on voit certains foyers dans plusieurs facs aujourd'hui et la contestation n'est pas éteinte.
Non, les services du ministère ont beau dépêcher aujourd'hui à Montpellier des enquêteurs afin de faire la lumière ainsi sur ce qui s'est réellement passé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Des plaintes ont également été déposées par des étudiants blessés et une enquête judiciaire est donc en cours. Mais pendant ce temps-là, sur les réseaux sociaux, des vidéos continuent de tourner montrant les cagoules, les armes, les coups lancés contre les étudiants mobilisés qui occupent et donc l'amphithéâtre, et également une forme de soutien de la part de l'administration de la faculté de droit. De quoi donner du grain à moudre aux étudiants mobilisés dans toute la France depuis le 1er février contre la réforme de l'accès à l'université. Des étudiants lillois appellent par exemple ce matin à la mobilisation pour mercredi prochain contre une réforme qui, selon eux, instaure une sélection à l'entrée de l'université et contre les violences policières et les expulsions sur les campus. Parce qu'il n'y a pas qu'à Montpellier que la fac est occupée. À Nantes, Bordeaux, Paris, Dijon, Strasbourg, Lille, Grenoble, les étudiants sont mobilisés et invoquent la liberté d'expression que leur garantit, disent-ils, le code de l'éducation. Et puis, il y a surtout la mobilisation à l'université du Mirail à Toulouse qui est encore bloquée aujourd'hui. Lors des assemblées générales, de nombreux représentants de la France insoumise sont présents aux côtés des étudiants. Et de plus en plus, ils ont face à eux des jeunes d'extrême droite.
Voilà, on note effectivement à cette occasion le retour actif de ces groupuscules étudiants d'extrême droite.
Oui, ce sont des jeunes se réclamant du GUD, Groupe Union Défense, rebaptisé depuis mai dernier Bastion Social, et dont la plupart des dirigeants ont été condamnés en justice. Ils sont intervenus violemment à la faculté de droit de Montpellier la semaine dernière, mais un groupuscule similaire s'est aussi infiltré au sein du lycée autogéré de Paris. Salut nazi, insultes homophobes, jettent des projectiles, 2 élèves ont été blessés. Et le lycée a porté plainte ce week-end. Pendant ce temps-là, un peu partout en France, des locaux de ce groupe d'extrême droite, Bastion Social, donc c'est son nom, s'ouvrent à Strasbourg, Chambéry, Lyon, Aix ou Marseille, malgré les manifestations et l'avis défavorable des conseils municipaux. Leurs manifestations étant souvent interdites pour raisons de sécurité, il semble que ces jeunes d'extrême droite aient trouvé, avec la mobilisation des universités françaises, un nouveau terrain de jeu.
Cécile de Carbaz-Doué, merci. Pour la première fois depuis 2007, la France est revenue l'an dernier sous la barre des 3% de déficit public, 2,6% exactement du produit intérieur brut, à la faveur d'une croissance plus forte qu'anticipée. Le gouvernement dévoilait ce matin le volet prévention de sa stratégie santé pour les 5 années qui viennent, 25 mesures qui vont des traitements anti-tabac, remboursés maintenant comme n'importe quel médicament, à la vaccination anti-grippe en pharmacie, en passant, Boris Loumagne, par le dépistage du cancer du col de l'utérus.
Oui, c'est un catalogue de mesures hétéroclites, pas vraiment de mesures marquantes. Quelques décisions tout de même, vous l'avez dit, détaillons-les. Concernant la lutte contre le tabagisme par exemple, la fin du forfait de 150 euros pour des substituts nicotiniques. Il n'y aura donc plus besoin d'avancer les frais puisque les patchs et autres gommes à mâcher seront remboursés. Autre mesure concrète mais qui n'est pas vraiment une surprise, la généralisation de la vaccination contre la grippe par les pharmaciens. Une mesure déjà expérimentée cet hiver en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine. Les premiers résultats sont aujourd'hui jugés positifs par le gouvernement. La mesure sera donc élargie au reste de la France dès l'an prochain. Troisième mesure notable, la création d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus. En clair, toutes les femmes n'ayant pas réalisé de frottis dans les 3 dernières années seront invitées à le faire. Le dépistage sera pris en charge à 100%. Et puis, pêle-mêle, dans ce plan, on trouve plusieurs objectifs plus ou moins clairs. Former 80% de la population aux gestes de premier secours contre 20% actuellement, mais sans vraiment fixer de calendrier précis. Autre objectif, éliminer l'hépatite C, mais à l'horizon 2025. Enfin, une dernière mesure, gadget, diront certains, sur les bouteilles d'alcool. Le petit pictogramme interdit aux femmes enceintes pourrait être agrandi. Bref, selon les syndicats, la CGT et la CFDT, c'est un plan qui cache la misère.
Boris Loumagne, merci. 1h10, c'est la séquence interview. Benoît Bouscarel, vous recevez notre consoeur Edith Bouvier, auteur d'une enquête intitulée « Un parfum de djihad » publié chez Plon.
Co-auteur effectivement avec Céline Martelet. Bonjour Edith Bouvier.
Bonjour.
Vous écrivez dans ce livre que l'égalité entre les femmes et les hommes en matière de terrorisme aussi fait son chemin. Et c'est une des forces, une des grandes forces de cette enquête, montrer comment petit à petit une prise de conscience a lieu. En France, en Europe, ces femmes embrigadées, ces femmes djihadistes doivent être considérées comme parfaitement conscientes de leurs actes. Ça évolue
lentement.
Lentement, ça voilà. Évolue le processus très lentement. Est très long.
Bah, on a encore du mal aujourd'hui, alors qu'on se bat en permanence en demandant l'égalité des salaires, l'égalité homme-femme. Et pourtant, ces femmes-là, pourquoi ne seraient-elles uniquement que des victimes? Pourquoi on considérerait que ces femmes n'ont pu que suivre un homme, n'ont pu que obéir à des ordres? Les femmes aussi peuvent faire des erreurs, et là, c'est une énorme erreur, mais ces femmes-là ont fait un choix.
Vous donnez des pistes dans votre livre, hein. Pourquoi ne les traite-t-on pas comme des hommes? Alors, vous citez la juge Isabelle Prévost-Desprez qui explique que la justice est sexiste. Il y a aussi tout un tas d'a priori sur la religion musulmane qui joue au niveau de la justice et au niveau de l'opinion publique.
C'est cette question à chaque fois où ils disent, est-ce que c'est un takfiriste? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui est en dissimulation? Il faut savoir que c'est quand même quelque chose de très difficile à porter au quotidien. Donc non, ces gens ne font pas forcément de la dissimulation. Et au contraire, lors des procès, ils sont quand même assez clairs dans leur choix, parfois avec des justifications qui ne fonctionnent plus quand elles disent je suis partie forcée par mon mari. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui.
Ça a fonctionné quand même.
Ça a fonctionné jusqu'aux attentats de septembre 2016.
Voilà, que les peines sont aussi plus faibles pour les femmes, très souvent. Qu'elles sont jugées plus tard aussi.
C'est encore compliqué. C'est régulièrement, les juges nous expliquaient que c'est régulièrement d'importantes discussions au moment de ces procès de femmes. C'est encore difficile pour les hommes de concevoir que les femmes en Syrie portent des ceintures explosives et peuvent porter la mort.
Alors il y a eu septembre 2016, vous venez de le dire, Edith Bouvier, cet attentat raté, complètement raté, mais on est passé vraiment pas loin de la catastrophe, à proximité de Notre-Dame de Paris. C'est un attentat qui a été fomenté et mis en place par des femmes.
Et qui prouve bien la détermination qu'elles peuvent avoir. Toutes ces femmes-là, qu'elles soient mineures ou majeures, portent une détermination très claire. Ce sont des femmes qui, pour la plupart, n'ont jamais voyagé. Le premier voyage de leur vie, ça sera de partir dans une zone de guerre. C'est là qu'elles vont penser trouver la paix, quelque part. Parce que certaines sont parties, les profils sont difficiles à établir. Il y a beaucoup de femmes.
Il n'y a pas de
typologie, hein. Ça serait trop facile. Nous, on a essayé d'avoir un éventail le plus large possible. Donc, on a des jeunes filles de toute origine possible, de tous les milieux possibles.
Tous les âges, souvent
très jeunes. Tous les âges, souvent, effectivement, beaucoup de mineurs. Donc, voilà, c'est pas le même profil et on parle moins on parle plus facilement de victimes dans le cas des mineurs quand même, il faut l'admettre. Mais c'est quand même des jeunes filles qui ont menti à leur entourage, ont contracté des crédits à la consommation, ont revendu toutes leurs affaires.
Pour financer les voyages.
Exactement. Et comme on l'a vu, comme on le disait pour la compagne de Redouane Lakhdim, c'est des jeunes filles extrêmement présentes sur les réseaux sociaux. Il y a très peu d'hommes vraiment gros recruteurs. Il y a Omar Homsen qu'on connaît très bien de Nice. Mais c'est surtout elles entre elles qui se parlent, qui se racontent « Viens ma sœur, viens tu seras bien ».
Est-ce que c'est la même chose que les hommes, si je puis dire, dans la manière de procéder? Est-ce que c'est exactement le même profil?
Non. Alors, je connais moins bien les hommes, mais non, c'est pas du tout les mêmes profils. Je pense qu'on a une plus grande variété sur les femmes, une plus grande variété aussi parce que c'est nouveau. Ça n'existait pas jusque-là. Il y a eu l'Afghanistan, il y a eu l'Irak, mais à chaque fois, il y avait 2-3 femmes. Là, on en est à des centaines. Et aujourd'hui, on a encore les irréductibles, elles sont... En tout cas, celles avec qui on continue de discuter, elles seraient une soixantaine.
Du côté de Deir-ez-Zor.
Dans une enclave à la frontière irako-syrienne, au sud de Deir-ez-Zor, effectivement, le long de l'Euphrate. Extrêmement déterminées, encore et toujours, portant leur ceinture d'explosifs.
C'est ce qu'elle raconte hein, dans votre livre. Effectivement, on sent au fil des pages que la fin est proche. Hein. Vous racontez aussi en filigrane, finalement, l'histoire de l'État islamique en Syrie et en Irak. La fin arrive, évidemment, et plus la fin arrive, et plus la détermination et le rapport à la mort changent. Et il y a ces ceintures d'explosifs, effectivement, qui sont omniprésentes. Et elle les garde jusqu'au moment où il faudra s'en servir.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la fin de l'État islamique, sauf que tant qu'on n'aura pas su trouver les mots pour traiter ces gens-là, tant qu'on on laissera des centaines de Français en Syrie, beaucoup moins en Irak, ils sont trois à peu près à Bagdad en prison, on ne pourra pas avancer parce que ces gens-là méritent un procès, méritent une justice et leurs victimes également.
Il faudra les faire revenir.
Oui.
Le problème, c'est les enfants après, plus d'une centaine d'enfants.
C'est un autre problème.
Voilà, un autre problème qu'on traitera une autre fois. Merci beaucoup, Bounaouz Karel. Merci à vous, Edith Bouvier. Un parfum de djihad s'est publié chez Plomb. Gris merci. Et humide, sauf près de la Méditerranée. Température 9 à 18 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal 18h, Aurélie Kiffer.